Can you hear me? Yes. Okay. Thank you, Dr. Clark.
Pouvez-vous m'entendre? Merci, Dr. Clark. C'était spectaculaire comme présentation et je pense que ça nous donne beaucoup matière à réflexion pour ce qui est de la discussion qui suivra la présentation de Mme Dubrovsky. Alors, sans plus attendre, j'aimerais présenter notre prochaine présentation, en fait, sur ce que les médecins ont à dire là-dessus. Essentiellement, lorsque les médecins sont en interaction avec les professionnels de santé, lorsque ces relations ont cours, qu'est-ce qu'ils veulent savoir, qu'est-ce qu'ils veulent entendre, et j'espère qu'on entendra des astuces pour voir comment encadrer ce processus. J'ai le plaisir, par conséquent, de vous présenter Dr. Dubrovsky, qui est une spécialiste au Montreal Children's Hospital. Il travaille aussi à l'hôpital du Montreal Children's Hospital. Il travaille dans les équipes interprofessionnelles. Il est très impliqué dans les projets d'amélioration de la qualité pour améliorer la communication entre les médecins et infirmières afin de maximiser la sécurité des patients. Sans plus attendre, j'aimerais vous présenter Dr. Sacha Dubrovsky.
Does everyone hear me?
Est-ce que tout le monde m'entend bien? Oui? Bien, bonjour. Je suis Sacha Dubrovsky. Comme on vous l'a dit, je travaille beaucoup en médecine d'urgence pédiatrique. Je fais d'autres choses aussi et je vais vous parler de ce que les médecins devraient entendre et ce que le personnel devrait dire. Je n'ai aucun conflit d'intérêt à divulguer. Voilà. Mais j'ai des billets. Je dois en divulguer un. Je travaille dans un milieu hospitalier, donc je vais vous parler de cette perspective-là. Je suis sûre qu'il y a beaucoup de parallèles et de similarités par rapport à ce qui se passe aussi dans les milieux communautaires. Je suis aussi un diplômé de 2004. Alors, je vous offre la perspective d'un diplômé assez récent. Et pour terminer, je ne suis pas un expert en communication, ni en sécurité des patients. J'ai fait des erreurs moi-même, j'ai mal communiqué moi-même et je vais sans doute continuer de le faire, même si je suis tout à fait engagée envers cette cause. Je pense que les équipes de soins de santé doivent vraiment s'efforcer de travailler mieux, de nous assurer, de reconnaître que les équipes efficaces, comme celles des Forces armées canadiennes pour la recherche et le sauvetage, passent chaque journée à se demander comment mieux communiquer. Alors, lorsqu'une situation critique survient, les gens communiquent bien de façon sécuritaire pour assurer donc des résultats efficaces aussi. Je vais vous raconter des histoires pour vous donner des exemples pour que vous puissiez comprendre ce qui se passe dans la tête d'un médecin pendant un échange professionnel. Je voudrais définir ce qu'est la collaboration interprofessionnelle pour moi et à travers des histoires, on va revenir au titre de cette conférence, ce que les médecins doivent entendre et que les infirmières doivent dire, stratégie d'amélioration. J'ai rencontré un patient qui ressemble à l'enfant que vous voyez sur cette image. J'étais dans la salle d'urgence chirurgicale. Ce petit garçon est tombé de sa chaise roulante. Sa mère est venue et on s'est demandé s'il y avait des fractures. Il était très évident, après un examen rapide, que tout allait bien chez cet enfant. Pour une raison X, j'avais demandé à la mère, pourquoi est-ce que votre fils souffre de paralysie cérébrale? Et ce qu'elle m'a répondu m'a vraiment surpris. Elle a dit, ça a été à cause d'une série de mauvaises communications. Et voilà l'histoire. Bon, il y a eu un accouchement vaginal normal. Il y avait un peu de détresse sur le moniteur. L'équipe a reconnu qu'il y avait un prolapse et a demandé qu'il y ait une césarienne. Et ensuite, ils ont attendu et attendu et attendu. Et ce qui s'est passé, apparemment, c'est que la salle d'opération n'avait jamais reçu le message. Alors, le résultat? Le bébé, le nouveau-né a dû être ressuscité et bien sûr, ces conséquences n'avaient pas du tout été prévues. On ne va pas travailler dans le domaine de la médecine pour causer de telles difficultés. On a choisi ces professions parce qu'on veut prendre soin des gens. Et ce qu'il faut reconnaître, c'est que nous sommes humains. Les erreurs sont inévitables et il faut s'assurer de mettre en place des systèmes qui nous aident à faire en sorte que nous puissions respecter notre serment d'Hippocrate, ne pas faire de mal. Plus de 2/3 des événements sentinelles sont dus à de mauvaises communications. On doit donc s'attarder à cela. On veut offrir de bons soins pour les patients et la famille, c'est ce qu'on nous demande, mais il y a encore beaucoup de chemin à faire. Le soin axé sur le patient n'est pas un concept nouveau. Je pourrais bien sûr vous raconter un peu tout ce qui s'est passé dans ce domaine, mais ça va au-delà du sujet de cette conférence. Des équipes de soins de santé doivent travailler en partenariat avec des patients et leurs familles. C'est ce que veut dire soins centrés sur le patient et la famille. Si c'est bien fait, ça améliore la sécurité et la qualité des soins, ça diminue les coûts et ça permet d'améliorer la satisfaction de tous ceux qui sont impliqués. Le point important, c'est d'avoir une équipe de professionnels de la santé. Et ces équipes, telles que définies par Team Steps, qui est en fait un programme de stratégie et d'outils pour améliorer la performance et la sécurité des patients. Ça a été mis sur pied il y a 10 ans. Donc, pour qu'une équipe fonctionne bien, il faut des équipes, des leaders efficaces qui s'apportent un soutien mutuel. Il faut utiliser une communication structurée et développer nos niveaux de connaissance et de connaissance de la situation. Il y a différents professionnels dans l'équipe. Il faut donc assurer une collaboration interprofessionnelle. Cela existe lorsque deux membres ou plus, provenant de différentes professions de la santé, travaillent ensemble pour résoudre des problèmes ou apporter des services avec un objectif commun. Pour avoir une collaboration efficace, il faut du pouvoir et de l'autorité. Il faut que la collaboration soit basée sur la connaissance et l'expertise. Il faut la confiance, le respect mutuel, ainsi que des contributions communes et, bien sûr, comme je l'ai dit, une communication efficace. On sait, bien sûr, que dans une commission, il y a quelqu'un qui envoie le message, quelqu'un qui reçoit le message, et il y a le message. Ça semble très facile, mais en fait, il y a beaucoup plus que cela. Qu'est-ce que vous dites? Quand vous le dites? Comment vous le dites? Ce que vous avez choisi de ne pas dire? Et plus important encore, la communication est aussi basée sur votre langage corporel et sur toute la communication non-verbale qui a une énorme incidence sur la relation entre l'émetteur et le récepteur. Information et communication sont deux mots clés, souvent utilisés l'un à la place de l'autre, mais en fait, ils ont des sens tout à fait différents. L'information, c'est donner quelque chose, et communication, c'est faire passer quelque chose. Très souvent, dans un hôpital, une infirmière vient me voir et me dit, « Sacha, je veux vous parler de Johnny, son rythme cardiaque est à 1,40, 1 litre d'oxygène. » Et elle fièvre, 39,5, je lui ai donné du Tylenol, merci beaucoup, et elle s'en va. Un peu plus tard, je lis dans les notes, le médecin a été informé. Informé de quoi? Est-ce que je devais prendre des mesures? Est-ce qu'elle me demandait de confirmer si c'était un état normal ou anormal? Je n'en sais rien. Et ça se produit sur une base quotidienne. La communication entre infirmières et médecins. Dans la littérature, résumée par Sean Clark, il y a beaucoup d'études qui portent sur les avantages d'interactions positives et sur les difficultés qu'engendrent des communications négatives. On sait que la bonne communication améliore la qualité des soins, la sécurité des patients, la satisfaction des patients. Ça permet de diminuer les erreurs, diminuer la durée de l'hospitalisation, les coûts, la mortalité, la morbidité. Ça, c'est évident. Du point de vue des infirmières, la bonne communication améliore l'apprentissage, le travail d'équipe, l'habilité à agir rapidement et permet aux infirmières de participer à toutes les étapes des soins. Ça peut améliorer la satisfaction des infirmières et la rétention des infirmières. Conséquemment, la bonne communication diminue l'épuisement professionnel et les coûts de formation de nouvelles infirmières qui doivent partir en congé. Du point de vue des médecins, la bonne communication améliore l'apprentissage, le travail d'équipe, l'efficacité, la satisfaction et, je dois vous dire, ça diminue la frustration aussi, parce que quand je suis responsable d'une équipe avec de mauvaises communications, tous les jours, je quitte le travail en étant très frustré, en me demandant ce qui s'est passé. Pourquoi est-ce qu'on se débat dans tout ça? On sait que la communication entre professionnels dépend de la volonté de communiquer les uns avec les autres. La capacité d'utiliser un langage assertif, d'être motivé à communiquer. On ne peut pas être dans la peur lorsqu'on va voir l'autre professionnel se dire « Oh mon Dieu, j'ai peur de ce que cette personne va dire, est-ce qu'elle va se mettre en colère ?» Si vous avez ça à l'esprit, eh bien la communication ne va pas se faire. Et il faut aussi une équipe avec un bon moral et une équipe où tous les membres comprennent leur rôle. Et sinon, on ne sait pas de quoi l'on parle. Voici une citation publiée et tirée d'un sondage de plus de 1000 infirmières. Voici la citation. Récemment, mon père a été hospitalisé pour une longue période. Il était surpris de voir comment les infirmières travaillaient fort, à quel point il voyait peu les médecins. Je n'ai jamais compris ce qu'étaient vraiment les soins infirmiers, a dit son infirmière. Ne vous en faites pas, monsieur, les médecins non plus. Explorons maintenant un peu la dynamique médecin-infirmière pour essayer de comprendre pourquoi on a tant de problèmes et comment on peut aller de l'avant. En 67, Stein a écrit un article sur le jeu médecin-infirmière. À cette époque, la plupart des médecins étaient des hommes, la plupart des infirmières étaient des femmes, et il y avait des interactions historiques intéressantes. Stein a parlé d'un jeu, où l'objet du jeu, c'est que les deux participants doivent être très sensibles à la communication verbale et non verbale de l'autre, et même parfois si la communication verbale est un peu difficile à déchiffrer. L'infirmière doit être audacieuse, prendre des initiatives, prendre la responsabilité de faire des recommandations, tout en apparaissant passive, donc en faisant ses recommandations de façon à ce qu'elle semble avoir été initiée par le médecin. Le médecin, en demandant une recommandation de la part de l'infirmière, doit le faire sans avoir l'air de le demander. La règle numéro un du jeu, c'est qu'il fallait éviter toute tension entre les deux parties. Si l'infirmière est votre allié, tout va bien. Mais si elle a une dent contre vous, préparez-vous à souffrir. Je voulais vous lire une citation de l'article. Je vous encourage à aller le lire. Il est vraiment très bien rédigé. Mais plutôt, je vais vous demander de vous demander si ces interactions sont encore comme ça aujourd'hui. Docteur Dubrovsky, est-ce que vous êtes sûr que vous voulez 10 mg de porphine pour ce patient? J'imagine que non. Imagine si le médecin, « Ah bon, Sacha, vous avez commandé 10 mg de morphine pour John qui fait 35 kilos. Je pense que vous devriez diminuer la dose. Ou alors, par voie orale, on peut donner 0.3 mg par kilo, ce qui représenterait 10 mg oralement. Ce serait une communication très différente. Et à ce moment-là, l'infirmière aurait bien fait l'évaluation et aurait communiqué les choses clairement. Parce que moi, j'aurais pu répondre, oui, je veux 10 mg de morphine intraveineuse sans me rendre compte que j'avais indiqué ainsi que j'étais d'accord avec cela et que cela, en fait, constituait une erreur de ma part. Au cours des décennies, les infirmières ont continué de faire progresser leur profession, plus de diplômes universitaires, promouvoir leur rôle de leur profession et faire... essayer de faire changer les règles du jeu entre la relation entre les infirmières et les médecins pour avoir plus de collaboration. La grande question, comment vont les choses? Je n'ai pas les études telles que celles que Sean a présentées, mais un questionnaire qui a été envoyé à 1000 infirmières par voie électronique, et je pense qu'on peut considérer que les résultats sont intéressants. Lorsque on demandait aux infirmières, êtes-vous satisfaite de la relation professionnelle avec les médecins? Eh bien, il faut voir si on regarde le verre comme étant moitié vide ou moitié plein. 50% ont dit qu'ils étaient satisfaits. 50% n'étaient pas satisfaits, par contre. Les tendances s'améliorent dans différents centres. Bon, si une infirmière sur deux n'est pas satisfaite, eh bien, je pense que les choses devraient être changées. Parmi celles qui sont insatisfaites, 71% ont rapporté que les médecins démontraient des comportements non professionnels, dégradants, diminuants, intimidants, humiliants, ce n'est pas acceptable. La moitié ont rapporté avoir été traités avec manque de respect et condescendance. Pas acceptable non plus. Il devrait y avoir zéro tolérance pour ce genre de comportement. Les médecins continuent à parler de haut, avec condescendance. Les médecins ne respectent pas, les infirmières ne considèrent pas que ce sont des professionnels compétentes. Du point de vue des infirmières, lorsqu'on leur a demandé de caractériser la relation avec les médecins, eh bien, j'ai été surpris. Environ 50% des infirmières ont dit qu'elles se sentaient comme étant les subordonnées des médecins, ou on les faisait se sentir ainsi. Et 30% du côté positif ont jugé qu'elles avaient des relations collégiales avec les médecins. Et lorsque j'ai regardé ce groupe, eh bien, elles venaient souvent des unités de soins intensifs où déjà il y avait énormément de collaboration au sein des équipes infirmières-médecins. Lorsqu'on a demandé aux infirmières, croyez-vous que les médecins comprennent ce que les infirmières font? 76% ont dit qu'elles ne le croyaient pas. Ce n'est pas surprenant. Ensuite, lorsqu'on leur a demandé « Croyez-vous que les médecins respectent votre jugement professionnel? » 70% des infirmières ont répondu que oui. Donc, d'une part, je n'ai aucune idée de ce que vous faites. Par contre, je respecte votre jugement. Et je pense effectivement que c'est tout à fait pertinent, ces commentaires. Stratégie pour le changement que j'ai suggéré dans beaucoup d'articles par la suite, il faut continuer de valoriser les infirmières, il faut éduquer les médecins, il faut améliorer la communication et il faut créer des équipes interprofessionnelles. Je vais vous raconter quelques histoires et avec ces histoires, on va pouvoir Ah, je ne sais pas s'il me manque quelque chose dans ma présentation. Il y a un an, j'ai travaillé à l'heure du lunch dans l'unité d'urgence et j'ai reçu un patient qui avait 10 ans, qui était tombé sur la tête et qui avait des comportements très étranges. On ne savait pas s'il y avait saignement et on avait l'impression qu'il avait une commotion cérébrale. Donc, on s'est dit, on va le mettre dans une zone d'observation pour voir ce qui se passera pendant la prochaine heure et on verra s'il faut agir ou pas, s'il faut intervenir ou pas différemment. J'arrive donc à l'unité de soins et je vois une maman très anxieuse qui s'occupe de son fils de 10 ans qui vomit, qui semble agité et bon, ça ne va pas du tout. Et j'essaie de parler au petit garçon, il ne répond à aucune de mes questions. Et instantanément, j'ai pris la décision. Je me suis dit, il faut le transférer et il faut faire un T-scan d'urgence. Et comme il vomit et qu'il est agité, il va sans doute falloir lui donner de la sédation et l'intuber. Donc, je n'ai pas collaboré avec l'infirmière qui avait observé ce patient au cours des 3-4 dernières heures. Je ne lui ai pas demandé si les choses s'étaient améliorées. Peut-être que je suis arrivée juste à un mauvais moment, mais que les choses s'étaient améliorées. Bref, je suis arrivée à la crash room et j'ai discuté à ce moment-là avec les infirmières et la famille. Et ensemble, on s'est dit qu'il serait mieux de l'intuber et de l'endormir pour le CT scan. Alors, pendant qu'on préparait le patient, les infirmières préparaient les médicaments pour l'intubation, l'équipe de radiothérapistes préparait l'équipement, quelqu'un m'aidait à communiquer avec les chirurgiens infirmières de l'unité de soins intensifs. Le patient a commencé à sembler vraiment très endormi et je me suis préoccupée, j'avais peur qu'il s'évanouisse, qu'il perde conscience, qu'on le perde. Et je n'arrivais pas à comprendre pourquoi les médicaments et l'intubation n'étaient toujours pas prêts. Et en fait, j'étais un peu fâchée. Et j'ai fait une autre erreur. Parce que, premièrement, je n'ai pas communiqué avec l'équipe pour faire comprendre que j'avais peur de sa situation actuelle et je voulais que les gens travaillent plus vite. Et l'autre erreur que j'ai faite, c'est que j'ai pas exploré, j'ai pas cherché à comprendre quel était le problème avec les médicaments pour empirer encore les choses. Le pédiatre d'urgence est venu et m'a dit, je veux faire l'intubation. La semaine d'avant, malheureusement, j'avais fait une intubation avec lui et il avait vraiment raté son coup et j'ai vu qu'il fallait qu'il améliore sa compétence en simulation et non sur un patient. Donc, ça a augmenté mon niveau d'angoisse et j'ai fait une autre erreur. Je n'ai pas communiqué avec mon équipe pour dire qu'on peut lui permettre de le faire, mais avant de lui permettre de le faire, il faut lui offrir plus de pratique. Et une autre erreur, je n'ai pas reconnu que mon angoisse aurait un impact sur ma capacité à bien diriger mon équipe et à communiquer efficacement. Donc voilà le pédiatre qui intube le patient, les choses procèdent. Et je me rappelle qu'on m'avait dit la saturation était 95%. C'est une infirmière qui m'avait dit ça et j'ai répondu, j'ai pas besoin de connaître la saturation 95%. Je veux que tout le monde soit tranquille dans la salle. Eh bien, ça, c'est l'erreur potentielle numéro 5, 6, 7, 8, 9, 10. Parce que, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai dénigré cette infirmière qui m'avait dit ça. J'ai créé une barrière hiérarchique pour indiquer que personne ne pourrait communiquer avec moi s'ils avaient besoin de le faire. Et aussi, j'ai mis à haut risque la vie de cet enfant. Heureusement, du point de vue du patient, les choses ont commencé à bien aller. Une heure plus tard, j'étais assis là et je me suis dit, bon, ça a bien été. Bref, mais quand même, je me suis vraiment senti comme un gros nul. Ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai été parler à cette infirmière senior et je lui ai expliqué tout ce qui s'était passé dans ma tête et mes préoccupations. Et j'essayais en fait de justifier ma réaction et mes commentaires désagréables. Et elle m'a dit que j'avais rien dit de tout ça à mon équipe, j'avais pas partagé mes réflexions, mes préoccupations. Et peut-être qu'effectivement, c'était pas nécessaire que je sois au courant de la saturation de 95%, mais ce que j'aurais pu répondre à la place, c'est merci beaucoup pour cette information. Pour l'instant, j'ai pas besoin de cette information, mais peut-être vous pourriez me le dire lorsqu'elle sera à 87% et à ce moment-là, je pourrais m'arrêter et réévaluer les choses. Ça aurait donné à l'équipe plus de renseignements. Bon, ils sauraient ce à quoi je voulais en venir, ce que je me préparais à faire, et ça aurait donné aussi à l'équipe l'occasion de me laisser savoir lorsque les choses commenceraient à mal aller. Donc, elle était préoccupée par le cas et les jours qui ont suivi. Bon, j'avais fait ce débriefing avec elle, mais ensuite, je voulais aller voir les autres membres de l'équipe pour faire un débriefing avec eux aussi. Et je lui ai demandé de m'aider à faire cela. On l'a fait ensemble. Et j'ai été revoir chaque membre de l'équipe et je me suis excusée. J'ai ouvert le dialogue sur le genre de communication qu'on devrait avoir les uns avec les autres. Et ça a ouvert la porte à des choses encore plus intéressantes. Entre autres, maintenant, on veut savoir mieux comment travailler, comment penser, comment communiquer les uns avec les autres. Maintenant, dans l'unité d'urgence, on essaie de faire ça. On essaie de réfléchir ensemble à ce qui s'est bien passé, ce qui s'est mal passé, comment on peut s'améliorer. On fait donc un débriefage, un débriefing ensemble. La plupart d'entre nous le faisons après des événements majeurs. Bien que beaucoup de gens dans notre secteur, ceux qui gèrent des équipes efficaces, diront qu'on devrait peut-être faire un débriefage chaque jour. Parce que peut-être qu'on a fait une quasi-erreur ou qu'on ne peut pas faire un débriefage de façon quotidienne. À ce moment-là, on oubliera comment bien communiquer lors des situations critiques. Dans le cadre de notre programme d'amélioration de la communication à l'unité de traumatologie, nous avons rencontré un éducateur pour faire un programme de simulation de communication interprofessionnelle. Donc, ce sont des cas de trauma simulés. Bon, il ne s'agit pas nécessairement d'intervention chirurgicale. On essaie plutôt d'apprendre à fonctionner en équipe, mieux communiquer les uns avec les autres et nous assurer que nous avons les mêmes modèles mentaux d'une situation. Il y a un scénario qu'on utilise bien souvent en situation de simulation et en situation clinique, c'est qu'on commence à intervenir, le médecin commande des médicaments, les infirmières préparent les médicaments et arrive le chef de l'équipe de traumatologie qui dit « j'aimerais avoir ces autres médicaments, pas de problème ». Les infirmières vont chercher ces médicaments, les préparent et ensuite on est tous là et on attend l'intubation du patient et on se demande pourquoi les médicaments ne sont pas prêts. Le chef d'équipe est frustré, il dit « eh bien, est-ce que le médecin d'urgence ne pourrait pas le faire? Qu'est-ce qui se passe avec les infirmières ?» Et en fait, ce qui se passe, c'est que personne ne communique. Et avec des simulations, on s'est rendu compte que il est très important que les infirmières disent « bon, on a préparé tel médicament, il n'y a pas de contre-indication pour ce patient, par exemple avec la catémine, est-ce que ce sera acceptable parce que c'est disponible maintenant ?» Au lieu de dire « bon, par contre, si vous voulez que j'aille chercher tel autre médicament, ça va me prendre 3-4 minutes de plus. » Et vice-versa, le chef d'équipe arrive et dit « bon, alors où est-ce que vous en êtes par rapport au médicament? Qu'est-ce que vous suggérez comme médicament? Qu'est-ce que devrait être la prochaine étape ?» Alors, de cette façon-là, je crois que, de façon subjective, je peux dire que ça a été une expérience très positive qui nous a permis de mieux travailler ensemble. Maintenant, ça fait 4 ans que nous procédons ici et on n'a pas vraiment établi des objectifs, des mesures précises au départ. Mais subjectivement, moi, je crois que notre département préconise davantage la collaboration et on a pu éliminer les barrières interprofessionnelles. La semaine dernière, il y a 2 semaines maintenant, j'ai entendu parler d'une situation où un patient est arrivé avec une tachyarythmie. Et dans notre contact, la tachyarythmie, c'est une tachycardie assez extrême. Et c'est comme ça que les patients sont traités. Et l'infirmière a regardé le CG, a regardé le moniteur et a dit c'est assez bizarre. Je pense que c'est un complexe de tachycardie beaucoup plus large. Et on a évalué les choses ensemble et effectivement, on a vu qu'il y avait une urgence potentiellement mortelle et qu'on a pu éviter tout autre incident néfaste pour le patient. Mais c'est avec des simulations et de la formation interprofessionnelle que maintenant on encourage nos infirmières et nos médecins à utiliser de la communication à boucle fermée, partager les modèles mentaux, utiliser davantage d'assurance lorsque nous nous exprimons, permettre à tout le monde de s'exprimer dans les équipe, enseigner au chef d'équipe comment procéder efficacement tout en maintenant tout en éliminant les hiérarchies négatives et néfastes. Je travaille aussi dans une unité de soins pour les patients hospitalisés. J'arrive à 8 heures le matin, on reçoit les informations de la nuit et ensuite on fait la ronde des lits avec l'équipe médicale. Alors, il y a les étudiants, 3 ou 4 résidents, moi-même. On a été même plus loin au cours de la dernière année. On a maintenant des rondes avec des pharmaciens. Mais ce qui manque maintenant, c'est qu'on n'a pas trouvé de solution pour faire des rondes avec les pharmaciens, les médecins et les infirmières ensemble. Alors, les résultats. On arrive au chevet d'un bébé de 6 mois avec un problème de pneumonie d'aspiration récurrent et il y a un tube NG et on prépare un programme d'alimentation. Donc, je dis quel est le plan et on me répond, eh bien, le patient devrait être prêt pour recevoir son congé aujourd'hui. On attend simplement les dernières rondes. Parfait, pas de problème. Je poursuis ma ronde. Je reviens le jour suivant. Qu'est-ce qui s'est passé? Le patient est encore là. Alors, je dis à mon assistant, qu'est-ce qui s'est passé? Ah, eh bien, il y a des problèmes avec les infirmières. Ah bon? C'est quoi le problème de soins infirmiers? Elle dit, je sais pas. Et ça m'a embêté. Alors, j'ai dit très bien, on va appeler l'infirmière et voir si elle peut venir nous parler. Enfin, c'est un infirmier. Heureusement, il était disponible. Et à ce moment-là, on s'est réunis et il m'a expliqué que la famille a des problèmes au niveau des emplois, les autres enfants, les responsabilités, tout ça. Et a dressé la liste de tous les problèmes de la famille, du patient qui devait faire face à cette situation. Et son opinion, c'était qu'il fallait faire X, Y, Z pour améliorer la situation et que ça prendra encore une semaine. Et on a changé quelques renseignements et ensemble, on a collaboré pour venir à établir un plan de soins efficace pour la famille et le patient. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce qu'on a manqué le bateau? Pourquoi est-ce que les infirmiers n'ont pas communiqué plus tôt? Je ne sais pas. Je n'ai pas toutes les réponses, mais je sais qu'il y avait un problème de système parce qu'il faut surmonter ces obstacles. Il y en a beaucoup. Et commencer à faire des rondes en tant qu'équipe interprofessionnelle. En tant que médecin, lorsque j'arrive au début de la ronde à 9 heures, je pense d'une certaine façon, je veux tous les renseignements, les diagnostics, les résultats de laboratoire et je recommande un plan de traitement. Mais je ne suis pas là pour administrer le traitement pendant le reste de la journée. La plupart du temps, je ne reste pas ensuite au chevet du patient pendant les 23 heures suivantes de la journée. Ce sont les infirmières qui sont là et ce sont les infirmières qui collaborent avec le patient au chevet. C'est donc cette équipe de constituée de l'infirmière et de la famille qui sait ce qui va bien et ce qui devrait être ajusté, amélioré. Une autre histoire qui vient de se produire très récemment aussi. On a admis un petit bébé de 5 mois qui souffrait d'une condition qui toussait, qui saignait. Ce sont des conditions qui sont très menaçantes, qui sont liées à un problème de coqueluche. Alors, on a commencé le traitement, l'intervention, et un matin, j'arrive et l'infirmière-chef me dit, Sacha, le patient a des problèmes sévères qui requièrent des soins fréquents et il faut peut-être changer les interventions. Bien sûr, pas de problème, je suis d'accord. Et je vais voir le dossier et je me rends compte qu'en fait, tout ça se produit depuis 24 à 36 heures. Mais je ne sais pas ce qui s'est passé au départ. Je ne sais pas pourquoi on ne m'a pas informé, pourquoi mon équipe n'a pas été informée, à savoir si les médecins n'ont pas communiqué, peut-être que les gens n'ont pas compris les choses de la même façon. Il n'y avait peut-être pas de mécanisme en place qui permettait aux infirmières de communiquer avec les médecins. Et c'est ce que j'appelle donc une quasi-erreur. Alors, je crois qu'il faut faire des rondes interprofessionnelles pour éviter ces quasi-erreurs, collaborer de cette façon au sein d'une équipe. Cependant, il faut évaluer la façon dont on nous forme à la communication dans les écoles. Moi, on m'a appris à parler de façon très succincte, très objective. Pour en venir à un plan de traitement. Par contre, ce qu'on m'a dit au sujet des infirmières, c'est qu'elles sont formées pour apprendre à communiquer de façon, pour répondre aux besoins des infirmières, de façon plus narrative, plus subjective, de façon plus collaborative. C'est des choses que j'arrive mal à comprendre. Et aussi des cartes de soins, enfin, je ne sais même pas de quoi il s'agit. Et donc, les infirmières et les médecins se rencontrent et il n'y a pas le même style de communication qui est utilisé. Je pense que ce qu'il faut faire, c'est de se mettre d'accord sur une stratégie de communication structurée quelconque. Trouver un mécanisme, quel qu'il soit, donc préparer la communication et ensuite parler avec la même langue et le même style. Alors, l'infirmière va arriver et va dire, « Oh, vous savez, le patient avait ceci, cela, la fièvre, c'est comme ça, il a été oxygéné, je ne vois pas où elle veut en venir, où il veut en venir. » Et la moitié du temps, j'arrête d'écouter parce que je suis un médecin urgentologue, donc j'ai une minute d'attention et pas plus. Enfin, vraiment très, très limité. Au lieu de dire, par exemple, bonjour Sacha, je suis inquiète parce que Johnny, dans le lit numéro X, a un problème d'hypoxie, détresse respiratoire, je suis très inquiète, voici ses antécédents, etc. Je recommande un PSU, des radiographies et je vous reverrai dans quelques minutes. Et à ce moment-là, je peux dire, bon, voici ce que j'ai compris, que tu voudrais que nous fassions. Donc, pour être sûr d'avoir bien compris ce qu'elle me disait. Ce qui est aussi très intéressant, c'est que beaucoup de médecins, même en 2012, on ne comprend pas comment les infirmières pensent. On ne comprend pas que les infirmières ne se contentent pas d'aller administrer le médicament et qu'une fois que le médicament administré, c'est fini. Mais non, il y a plein de choses. Quelles sont les doses? Quels sont les effets secondaires? Quels sont les aspects cinétiques du médicament? Donc, anticiper les effets secondaires, etc., tous ces éléments qui entrent en ligne de compte. Et c'est seulement à la collation des diplômes en 2004 que j'ai regardé dans la salle et je me suis rendu compte que je ne connaissais personne à part les gens de ma classe. Et il y avait des professionnels, des cours de pharmacie, sciences infirmières, il y avait des parents qui prenaient des photos, etc. Et je me rappelle, je me suis dit, qu'est-ce que ces gens viennent de faire pendant les 3-4 dernières années? Comment ça se fait qu'on ne s'est pas rencontrés à aucun moment de ces années? Qu'est-ce que ces gens vont faire ensuite dans leur vie professionnelle? J'en avais aucune idée. On a été formés en isolement pendant des décennies, peut-être même des siècles. Nos écoles se trouvent à des bouts opposés du campus McGill et c'est seulement à partir de la base des origines qu'on pourra vraiment créer une culture de collaboration dès le début. Il faut avoir une expérience d'apprentissage plus collaborative dès le départ pour bien comprendre les rôles des uns des autres, les forces des uns des autres, les faiblesses des uns des autres aussi, parce qu'on a tous des forces et des faiblesses. Il faut apprendre à communiquer pendant nos études et développer une expertise en matière de collaboration tout au long de nos études et ensuite dans nos expériences professionnelles. À ce moment-là, on pourra bien communiquer les uns avec les autres sur une base égale, sans obstacle hiérarchique. Quels sont les 5 W en anglais? Donc, who, what, when and where, why, what, c'est-à-dire de qui parle-t-on, qu'est-ce qui s'est passé, quand et où est-ce que ça s'est passé, pourquoi est-ce que c'est survenu? Et plus important encore, je voudrais savoir qu'est-ce que vous suggérez. Peut-être que vous vous demandez pourquoi je vous ai montré cette image au début de ma présentation de collision d'avion et je vais vous expliquer un scénario brièvement s'est produit en 77 dans les îles Canaries. Peut-être que vous vous en rappellerez, il y a eu un crash et on avait cru qu'une bombe allait exploser dans l'aéroport principal. Ils ont détourné les avions vers un plus petit aéroport qui ne pouvait pas utiliser, accepter ce gros volume d'avions. Les gens communiquaient par walkie-talkie. Il y avait énormément de brouillard, donc toutes sortes d'éléments, toutes sortes de facteurs qui menaient au désastre. Mais pire encore, le contrôleur du trafic aérien a dit au pilote, vous êtes prêt à vous préparer au décollage. Mais lui, il a dit, bon, oui, je suis prêt à décoller. Et il a commencé à décoller. Donc, il n'y a pas de stratégie de communication structurée. Le copilote, avec le contrôleur de trafic aérien, le copilote avait saisi la nuance, mais il n'avait pas moyen de s'exprimer. Et le résultat, 600 morts. Et maintenant, on a plus une culture de sécurité au sein du secteur aérien. Et ils ont pu diminuer les mortalités. On sait que c'est beaucoup plus sécuritaire de nos jours de prendre l'avion que de conduire la voiture. Pourquoi? Parce que le secteur aérien a déployé beaucoup d'efforts pour instaurer une culture de sécurité. On n'a pas besoin de réinventer la roue. On peut aller chercher l'information chez nos collègues qui travaillent dans des organisations où la sécurité est très, très importante et la communication aussi. Chaque personne qui travaille dans une institution, la personne qui nettoie les filtres de l'hélicoptère, qui gonfle les pneus, qui met de l'essence, dans le réservoir, qui prépare les boulons, etc. Le pilote, le contrôleur du trafic aérien, la personne qui nettoie, tout le monde sait que s'il ne fait pas bien son travail, s'il ne communique pas effectivement avec les autres, une catastrophe majeure peut se produire. Et ces gens travaillent en équipe et ils reçoivent régulièrement des formations sur la communication. Et plus important encore, ils ont une culture axée sur la sécurité. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut éliminer les silos dans les sphères de notre secteur d'activité, là où on apprend, là où on prend soin des patients, dans les processus d'études, de recherche, d'administration et, un fait important, ensemble aussi, dans les événements sociaux.
Lorsque nous commençons à être formés et travailler ensemble comme équipe, eh bien, on arrivera à la ligne d'arrivée en ayant réalisé cet objectif de livrer donc un soin centré sur la famille et le patient. J'aimerais terminer avec cette citation qui n'est pas nécessairement une qui porte sur la communication, mais qui nous provient du Dr. Zuss. « Sois toi-même et dis ce que tu ressens, parce que ce que ça offusque n'importe pas, et ce qui importe, n'en sera pas offusqué. » Merci beaucoup.